dimanche 25 mars 1979. 23e leçon de catéchisme pour adultes par M. l'abbé Montarien en la chapelle polonaise à Paris.
En principe, si je suis le programme du catéchisme que je n'ai pas suivi avec les enfants, nous commençons ce soir le mystère de la rédemption. Ce soir, je commenterai, sur le ton de la prédication bien sûr, puisque c'est une petite retraite, je commenterai l'agonie au jardin des Oliviers. Et la semaine prochaine, je pense que nous réfléchirons sur la crucifixion. Je commence par suivre saint Marc. Et ils viennent en un domaine nommé Gethsémani. Nous allons nous représenter le lieu, la composition du lieu, comme dit saint Ignace de Loyola. Il est environ 6 ou 7 heures du soir, autant que je puisse voir. Les Juifs prenaient leur repas vers 5 heures, nous sommes au printemps. La nuit est tombée, la Sainte Écriture nous le dit. Jésus sort du Cénacle avec ses disciples. Nous pouvons nous les représenter traversant la ville de Jérusalem endormie. Endormie peut-être pas, mais silencieuse. Les petites rues sont désertes. C'est le temps de Pâques. Les gens ont autre chose à faire. Ils célèbrent la fête en famille, comme il est dû. Nous voyons donc Jésus et ses apôtres traverser Jérusalem, traverser le quartier de Siloé et sortir de la ville probablement par la porte de la fontaine qui se trouvait au sud-est de la cité. Ensuite, ils remontent vers le nord le long des murailles, traversent le Cédron et atteignent ce jardin dont on nous dit ici qu'il s'appelait Gethsémani. Il est probable que ce jardin était la propriété d'un ami de Jésus. Vous pouvez vous représenter également, de façon très matérielle, ce jardin, un petit jardin en clos, sûrement. Gethsémani veut dire le pressoir à huile, et cela nous aide à voir le lieu. Le pressoir est habituellement installé dans une grotte, et à l'entrée du jardin, si ce jardin est comme les autres, il y a une petite cabane, avec des outils et des feuilles mortes. Gethsémani. Gethsémani est une souricière. Il faut bien que nous comprenions que Jésus va là et non pas ailleurs parce qu'il veut être pris. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. C'est au moment où Jésus décide de mourir qu'il va mourir et non pas avant. C'est au moment où Jésus décide d'être tenté qu'il va être tenté. Il y a tout de même quelques différences entre Jésus et nous. Jésus est Dieu, Jésus est homme. Je suis homme, j'ai été d'une certaine manière divinisé au jour de mon baptême, mais tout de même, je ne suis pas Dieu. Notre Seigneur qui m'a enseigné le pater m'a demandé de supplier Dieu d'éloigner la tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais dans le même temps qu'il me conseillait d'adresser au Père cette prière, il savait que je serais tenté, que je connaîtrais l'épreuve. J'essaie en ce moment de faire un parallèle entre Jésus et moi, de façon à mieux comprendre comment je devrais me conduire, par exemple, dans l'épreuve. Bon, avant l'épreuve, je demande à mon Père de bien vouloir me l'épargner. Mais je sais que Dieu n'en fait qu'à sa tête. Il faut le supplier de nous épargner l'épreuve, la tentation. Le mot « tentation » veut dire « épreuve » dans un sens plus large que le sens français, en latin même. « Tentatio », c'est l'épreuve en général. Et puis si cette épreuve vient, comment est-ce que je vais m'y prendre? Je ne vais pas faire comme Jésus. Je ne vais pas l'imiter. Jésus, lui, choisissait d'être tenté, il choisissait l'épreuve, il l'acceptait quand il voulait, moi non. Je vais essayer de la fuir, cette épreuve, cette tentation, et je ne la supporterai que si Dieu me l'impose vraiment. Je veux mettre Dieu dans ses derniers retranchements avec moi. Je lui ai demandé de ne pas m'éprouver, il m'éprouve, il me tente, je fuis devant cette tentation. La tentation persiste. Eh bien, je lui résiste à cette tentation.
mais je l'aime d'une certaine manière, puisque Dieu la veut. Il faut aimer tout ce que Dieu veut. Il y a 36 attitudes possibles. Mais l'attitude la plus courageuse, encore une fois, est la fuite. Autant qu'il est possible. Vous vous rappelez cette histoire que raconte Sainte Thérèse de Lisieux à propos d'une tentation que vous connaissez, et que je connais moi-même très souvent, celle de se mettre en colère avec les gens qui sont agaçants. Il y en a, vous savez, des gens qui sont agaçants. Elle était allée trouver sa mère prieure, je ne sais plus, pour une histoire de clé. La mère prieure était malade, et elle frappe à la porte, il y avait une autre sœur qui était là, qui me dit, donnez-moi ces clés, je les remettrai moi-même à la mère prieure qui dort, vous allez la réveiller. Et sur Thérèse répond, mais je suis chargée de remettre ces clés. L'autre insiste, et la sainte sentit la colère, la saisir, par le fond. Ça vient du fond de notre mauvais être. Que fit-elle? Elle s'enfuit littéralement. Elle partit en courant. Je me demande ce qu'a pensé l'autre religieuse. Elle partit en courant et elle nous dit, arrivée au bas de l'escalier, je m'assis sur la marche pour jouir en paix des fruits de ma victoire. Voilà comment nous devons nous éprendre que nous sommes tentés. Nous avons essayé de ne pas l'être, nous avons prié Dieu, nous avons fui la tentation. Il est bien entendu qu'il nous faut éviter les occasions de tentation. Et puis nous voilà tentés. Sauvons-nous si c'est possible. Sauvons-nous physiquement. Sauvons-nous physiquement. Je pense à n'importe quelle tentation. Et puis si nous sommes trop lourds ou trop vieux pour nous enfuir physiquement, eh bien, prenons la fuite à l'intérieur de nous-mêmes. Supplions Dieu, supplions la Sainte Vierge. Mais revenons à Jésus. Jésus qui se rend donc à Gethsémani. Il arrive donc à l'entrée du jardin et je suppose qu'il donne congé ou qu'il prend congé de ses apôtres là où se trouve la petite cabane. Il les fait entrer, tout ce monde s'installe sur la paille ou sur les feuilles mortes et Jésus va un peu plus loin simplement accompagné de ses trois apôtres préférés, Pierre, Jacques et Jean. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à mon avis, ce jardin appartenait à un ami. Il y a plusieurs choses qui me le font penser. Je ne suis pas le seul à le penser, j'ai lu ça dans les livres. Je ne suis pas assez fin limier pour découvrir ces choses-là. Saint Marc nous parle d'un jeune homme qui, au moment de l'arrestation, se trouvait là, vêtu seulement d'un drap. Vous vous rappelez cette histoire? Et comme il est le seul à nous rapporter cet épisode, on a pensé que ce jeune homme était lui-même, Saint Marc. Or, nous savons que les Juifs du commun n'utilisaient pas de draps. Les gens riches se dévêtaient et s'enveloppaient d'un drap de lin pour dormir. Les autres, les apôtres par exemple, ou même Jésus, se contentaient de leur manteau. Or, ce garçon qui se trouve là, vêtu d'un drap de lin, peut-être est-ce, en même temps que Saint Marc, le propriétaire du Cénacle, qui avait accompagné Jésus et les apôtres. Et à ce propos, je voudrais aussi vous donner un petit conseil que je vais tâcher de suivre moi-même un peu mieux. Les biens de la terre sont à... J'allais dire une bêtise. Les biens de la terre sont à leur légitime propriétaire, mais ils sont à la disposition de tout le monde. Ils doivent servir à tous. Ce n'est pas une idée qui m'est personnelle que je vous donne là. C'est la doctrine de l'Église. J'acquière telle propriété par héritage ou parce que je l'ai achetée avec mes sous, mais cette propriété... Je dois la faire servir autant que possible, au plus de monde possible. De façon sage, raisonnable. Hein. Je connais bien des personnes qui ont des propriétés, qui ont de l'argent, et qui font servir leurs propriétés autant qu'ils peuvent. Ils se rappellent qu'ils sont propriétaires, mais que les biens de ce monde sont à la disposition de tous. La manière doit être... peser
avec sagesse. Jésus a profité de ces différentes hospitalités. Je pense à la récompense de ceux qui l'ont abrité quand il était sur la terre. Marthe, Marie, Lazare, le propriétaire du cénacle, ou la propriétaire du cénacle, car s'il s'agit de la famille de Marc, il semble qu'il s'agisse d'une femme, sa mère. Il en est question dans les Actes. Sachons faire profiter les autres de ce que nous avons, sans en perdre d'ailleurs la propriété. Soyons généreux, non pas stupides, mais généreux, dans la manière d'utiliser ce que nous avons, que ce soit considérable ou non. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il semble que, jusqu'à ce moment, Jésus ne soit pas tenté. Tout à l'heure, on va nous dire, « Il commença de connaître la peur et l'abattement. » Donc, il ne les a pas connus avant. Ces démons n'interviennent que quand notre Seigneur veut bien les laisser agir, encore une fois. Les trois apôtres préférés qui accompagnent Jésus se figurent peut-être qu'ils vont assister à quelque chose de merveilleux, comme deux fois déjà, la chose leur était survenue. Au moment de la résurrection de la fille de Jaïr, et puis sur le mont de la Transfiguration. Ils ne vont pas assister à quelque chose de merveilleux, ils vont assister à quelque chose d'atroce. Les voilà au milieu du jardin. Il commença à être envahi par l'effroi et l'abattement. Je ne veux pas entrer trop profondément dans l'âme de Jésus parce que j'ai peur de dire des bêtises, de blasphémer. Jésus est Dieu, Jésus est homme, Jésus est un homme parfait. Non pas de ce genre d'homme que vous connaissez bien parce que vous en êtes, de ce genre d'homme blessé par le péché originel, qui connaît les vilaines passions. Jésus ne connaissait pas les vilaines passions, mais il connaissait les passions. Il a même connu la passion. Nous entrons dans la passion. Les passions ne sont pas forcément de mauvaises choses. Par exemple, la joie. Voilà une passion. Je suis saisi par la joie. On nous dit quelque part dans l'Évangile que Jésus tressaillit. On le voit pleurer également. C'est la tristesse. Est-ce que la peur est une mauvaise passion? Non. Le bon Dieu a voulu que nous ayons peur de temps en temps. C'est très pratique. Cela nous fait voir le danger qui vient. Si nous ne connaissions pas la peur, eh bien nous connaîtrions le danger dans ce qu'il y a de plus dangereux, c'est-à-dire que tout cela finirait mal. Jésus donc connaît la peur et la tristesse à un degré énorme, mais dans une manière qui est normale et que je ne comprends pas. Voilà une nature humaine parfaite. Mais précisément parce qu'elle est parfaite, Jésus a une sensibilité extraordinaire. Quand il a peur, il a plus peur que d'autres. Mais encore une fois, dans les limites de l'équilibre que je ne saurais vous définir. Quand il est triste, il est plus triste que je n'ai jamais été. J'ai connu des tristesses, je parle de moi, morbides. Jésus non. Mais Jésus a été plus triste que moi. Il est saisi par la peur. Quand vous êtes triste, quand vous êtes secoué par les passions mauvaises, eh bien, tâchez de vous mettre au-dessus. Jésus n'a pas eu à le faire. Mais Jésus a souffert tant, et il était tellement Dieu, puisqu'il était Dieu, qu'il nous a obtenu toutes les grâces, tout ce qui nous est nécessaire. Quand vous êtes affolé, inquiet, triste, pensez à Jésus. Suppliez-le de vous aider, mettez-vous au-dessus dans les plus brefs délais. Ce sera difficile. Mais avec les années, si vous continuez le combat, vous atteindrez de merveilleux résultats parce que Jésus vous les fera atteindre. Vous m'avez souvent entendu dire, que le chrétien normal, ordinaire, n'est jamais vraiment triste ou inquiet s'il s'agit d'épreuves communes. Si vous vous plaignez encore du temps qu'il fait, si vous vous plaignez de cette petite fièvre que vous avez, 37,3, 37,8, si vous vous plaignez des contrariétés qui vous viennent des événements, les élections n'ont pas donné ce que vous attendiez, vous comptiez passer cette heure à faire telle chose, et voilà que brusquement, il vous a fallu recevoir Marguerite, qui s'est pointé alors que vous ne souhaitiez pas. Il ne faut pas vous plaindre de tout cela. Ce sont les épreuves communes. Dans les grandes épreuves, vous avez le droit de vous plaindre, Jésus l'a fait. Il a même supplié son Père, nous allons le voir tout à l'heure si mon bavardage m'en laisse le temps, il a même supplié son Père d'éloigner ce calice. Je parle toujours de Sainte Thérèse de Lisieux, mais elle m'est bien pratique. Dans les grandes épreuves, quand je ne peux plus faire autrement, j'ai le droit de me plaindre. Nous avons tous les droits quand nous ne pouvons pas faire autrement. Dans les tout derniers jours de sa vie, elle souffrait beaucoup. Et à chaque respiration, ou presque, elle faisait « aïe ». Et elle dit à sa garde malade, qui était une de ses sœurs, je ne sais plus laquelle, « quand vous m'entendrez dire « aïe », vous ajouterez « merci mon Dieu » parce qu'en réalité c'est ce que je veux dire. Mais la plainte me vient comme ça, spontanément. Je pense à notre Seigneur Jésus-Christ. « Seigneur, s'il vous est possible que ce calice s'éloigne de moi », ce qui se traduit en bon français par « aïe ». Mais non pas ma volonté, la vôtre, ce qui se traduit en bon français par « merci mon Dieu ». Il faut que nous apprenions cela dans les grandes épreuves que je ne vous souhaite pas, ou plutôt je vous souhaite la volonté de Dieu, lui saura. Le voilà donc envahi par l'effroi et l'abattement. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici éveillés. » Autrement dit, Jésus, en homme qu'il est, a besoin de compagnie quand il est dans l'épreuve. Il a laissé la tentation envahir son âme au plus profond qu'il était possible, je ne sais pas jusqu'où. Un bon théologien vous le dirait peut-être, mais vous ne comprendriez pas. Je ne suis pas un bon théologien. Alors je m'en tiens à mon ignorance. Et il a besoin de la compagnie de ces trois-là qu'il aime particulièrement. Dans les ennuis, petits ou grands, eh bien, tenons la place de ces trois préférés et, si possible, tenons-la mieux qu'ils ne l'ont fait. Je vous conseillais tout à l'heure de ne jamais vous plaindre. Eh bien, je vous dirai maintenant davantage. Dites à Jésus, même si vous pensez tout le contraire, au moment où cela ne va pas, « Seigneur Jésus, je suis tout content. Vous n'êtes plus tout seul. Nous voilà deux. » Même si vous pensez le contraire, vous n'en souffrirez pas davantage, vous savez. Mais vous le réconforterez. Vous savez, ce sont nos péchés présents qui ont causé la mort de Jésus. Et je me dis quelquefois, je me le dis parce que j'ai de bonnes pensées, cela m'arrive, que mes bons mouvements intérieurs, comme celui que je viens de vous décrire, soulagent Jésus dans son agonie. Parce que pour Dieu, le temps n'existe pas. Je quitte Saint-Marc et je vais chez Saint-Luc. Et il fut attiré loin d'eux à la distance d'un jet de pierre environ. Attiré comment ? Intérieurement, probablement. En même temps qu'il veut de la compagnie, il veut être seul pour être plus à son père, ou pour que son père soit plus à lui. Bref, il veut les deux. Et s'étant mis à genoux, il priait. Cette attitude n'est pas l'attitude habituelle chez les Juifs. Les Juifs priaient debout. Si Jésus est à genoux, c'est parce qu'il ne peut plus tenir debout. L'épreuve est à ce point. c'est l'impuissance physique. Alors là encore, je vais vous donner de bons conseils, mais j'ajouterai que, n'ayant jamais souffert physiquement, vraiment, je me sens un peu gêné pour le faire. Quand vous souffrez physiquement, eh bien, là encore, rappelez-vous que vous tenez compagnie à quelqu'un. J'ai horreur de donner ce genre de conseils, encore une fois, parce que je ne sais pas, je ne connais pas cette histoire. Et j'avouerai que je ne souhaite pas la connaître. Mais combien de fois est-ce que je vois de gens qui sont impuissants dans leur lit, qui ne peuvent plus rien, qui se sentent inutiles? Je sais fort bien qu'ils sont très utiles et je le leur dis, mais j'ai honte. Alors je vais chercher le concours des saints qui, eux, ont souffert. Je leur cite une telle ou un tel. Cela me facilite la tâche. C'est ce que je fais ce soir. Quand vous souffrirez physiquement, rappelez-vous que Jésus a souffert physiquement. Nous le verrons dimanche prochain plus exactement. Mais ce soir déjà, la terreur, la peur le jette à terre. Et il disait, « Père, si tu le veux bien, éloigne ce calice de moi. » C'est une expression juive, cela, le calice. Cela veut dire le sort, bon ou mauvais, plutôt mauvais. Mais bon aussi, quand j'ai été tonsuré, la cérémonie de la tonsure existait encore à cette époque, nous avons chanté, et j'ai dit à l'évêque, en me présentant à lui, voici le calice qui m'est choix, voici le sort qui m'est proposé, ma part est la plus belle. Cette fois-ci, c'est quelque chose de très agréable. Mais habituellement, c'est plutôt pénible. Jésus, en ce moment, dit « aïe ». Il demande à son père d'éloigner ce calice. Autrement dit, je ne dirais pas qu'il est troublé, parce que, si, l'Évangile nous dit quelque part que Jésus fut troublé. Il est troublé au maximum de la possibilité, encore une fois, mais je ne sais pas. Et alors, Saint-Luc nous dit, vous savez que Saint-Luc n'a pas été témoin du fait. Saint-Luc, c'est celui qui écrit sur témoignage. Il a fait une enquête. Il s'est donc renseigné auprès des trois dont j'ai donné les noms tout à l'heure. Il s'est renseigné auprès d'eux. Les autres ne nous disent pas cela. Lui a été frappé. Saint-Luc nous dit qu'il priait avec plus d'intensité, d'instance, et que sa sueur fut comme des globules de sang qui coulaient jusqu'à terre. Vous vous rappelez que Saint-Luc était médecin. Et cela l'a frappé davantage que les autres. Cette insistance que Jésus met à prier parce que la tentation est plus forte. Et puis ces globules de sang. Aristote avait déjà constaté ce phénomène qui se produit, paraît-il, quelquefois, mais qui est rare. Et qui s'appelle, Aristote appelait cela, l'hématidrose. Dans un cas de d'angoisse extrême, voilà ce qui se produit. Alors vous pouvez vous représenter la scène, vous savez, c'est le clair de lune, il fait froid, je sais tout cela, comme si j'y étais. Je sais que c'est la pleine lune puisque nous sommes à Pâques, et Pâques c'est la pleine lune. Je sais qu'il fait froid parce que, plus loin dans l'Évangile, on nous dit que dans la cour du grand prêtre, on avait allumé un feu à cause de la température. Donc, à la distance d'un jet de pierre, c'est-à-dire, je suppose, le diamètre de cette église, au clair de lune, on voit parfaitement ce qui se passe. Et puis, de toute façon, Jésus, tout à l'heure, va se rapprocher. Il va se rapprocher de ses trois apôtres, et ils verront les sillons rougeâtres sur son visage, et puis le sang coagulé, l'angoisse de Jésus. J'ai dit jusqu'à ce jour que cette agonie de Jésus était en même temps la peur et le remords. J'hésite à dire depuis ce jour, parce que j'ai réfléchi à ce que je vous raconte ce soir, j'hésite à dire que Jésus ait connu le remords, parce que c'est une mauvaise passion, le remords. Jésus a eu peur. Mais nous autres qui sommes mauvais, nous pouvons connaître le remords, qui est une angoisse de forme très particulière. Alors rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de la tentation en général. N'entretenez pas votre remords si vous connaissez ce genre d'angoisse. sortez le plus vite possible de cette affaire, qui est une mauvaise affaire. Mais si vous n'y parvenez pas, eh bien, remerciez du bout de vos lèvres, à la pointe de votre volonté, notre Seigneur de bien vouloir vous faire participer à son angoisse, qui n'était peut-être pas du remords, qui n'était sûrement pas du remords, mais qui était tout de même terrible. Vous n'avez pas, que je sache, ou si cela vous est arrivé, vous ne me l'avez pas dit, vous n'avez pas jusqu'à présent transpiré du sang à force d'angoisse. Moi non plus. Et pourtant, je vais vous faire une confidence. Quand je pense à certaines périodes de ma vie, eh bien, je n'ose pas dire que mes cheveux se dressent sur la tête, parce que de toute façon, ils ont disposition à le faire, mais c'est cela pourtant. Et j'ajouterais que je n'ai pas su souffrir. J'ajouterais que je n'ai pas su suivre les conseils que je vous donnais tout à l'heure. Me débarrasser le plus vite possible de cette souffrance-là et l'unir, peut-être ai-je essayé de le faire, mais si mal, à la souffrance de Jésus. Nous verrons plus tard, si Dieu permet, ce sera bien comme il voudra, mais s'il me consultait, je m'en tiendrai à cette jolie phrase qui est de Jésus et qui me plaît tant, que ce calice s'éloigne de moi. Je pense et j'affirme aussi la suite d'ailleurs. Et se relevant après la prière et venant vers les disciples, il les trouva endormis par le chagrin. Autrement dit, ils ont veillé avec lui un bon bout de temps, et puis finalement ils se sont endormis. C'est Saint Luc encore qui nous dit qu'ils se sont endormis à cause de leur chagrin. Je ne sais pas si tous les médecins sont psychologues, mais celui-là l'était. Je connais des personnes qui, quand elles ont du chagrin, se couchent plus tôt. Il me semble que c'est une sorte de mentalité suicidaire. Je connais des enfants, oui, c'est un petit suicide, ça. Se coucher plus tôt parce qu'on a du chagrin. S'endormir là-dessus pour oublier, ne plus savoir. Les petits-enfants font cela. Quand on les a grondés, ils commencent par pleurer, et puis 3 minutes après, on les trouve au creux d'un fauteuil, ils dorment. Voilà ce qu'ont fait les apôtres. Ils ont veillé un petit peu, et puis ensuite ils se sont endormis parce qu'ils avaient du chagrin. Le chagrin endort, c'est comme le bon vin. Et je retrouve Saint Marc pour terminer, parce qu'il ne me reste plus que 2 minutes. Jésus revint vers les disciples, il les trouva endormis. Saint Marc ne nous dit pas à cause du chagrin. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors. » Tu n'as pas pu veiller une heure. C'est très intéressant cela. Parce que Saint Matthieu, par exemple, nous dit que Jésus, s'adressant aux trois, leur dit, vous dormez, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Chez Saint Marc, c'est Simon, tu dors. Vous vous rappelez que Saint Marc est le porte-parole de Saint Pierre. Saint Pierre, on en a plusieurs exemples dans l'évangile de Marc, n'hésitait pas à se noircir. C'est un homme sympathique, vous savez. On a eu des papes de toutes sortes, mais celui-là était particulièrement attachant, le premier. Il ne se rappelle de cette phrase de Jésus que ce qu'il en a ressenti dans le fond de son cœur à lui. Le reproche était adressé aux trois apôtres. Saint-Pierre l'a retenu comme s'il ne lui était adressé qu'à lui. Voilà, c'est l'heure. Il faut terminer sur une belle phrase. Puisque je parle de Saint-Pierre. Saint-Augustin nous dit à propos de Saint-Pierre que Pierre a commis une faute et qu'il a pleuré toujours ensuite. Semel peccavit et semper flevit. Il a péché une fois, il a pleuré toujours. Alors nous autres, nous devrions avoir honte parce que nous péchons sans cesse et nous ne pleurons jamais.